grand reportage.
Faire face à son passé et tenter d'en réparer les dommages. Ainsi, l'Autriche a été longtemps critiquée pour son travail de mémoire tardif, malgré sa participation aux crimes nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le pays fait figure de modèle pour la restitution des œuvres d'art spoliées par les nazis. Une loi unique en son genre a créé en 1998 une commission chargée d'enquêter au sein des collections publiques afin de restituer les objets et œuvres d'art spoliées par les nazis. Un travail colossal qui se poursuit encore aujourd'hui. En Autriche, restituer l'art pour rendre la mémoire, c'est un grand reportage d'Isorias.
Cet après-midi d'hiver, un brouhaha intrigant s'échappe de la Dorothée Gasseux. Il faut se rendre au numéro 11 de cette petite rue sinueuse du 1er arrondissement viennois pour en trouver l'origine. C'est là que se trouve l'entrée du musée juif. De nombreux Autrichiens ont bravé le froid pour venir découvrir une exposition qui, vu son succès, joue les prolongations. Elle raconte l'histoire fascinante des Efroussis, une famille juive renommée dont nous parle Gabriele Kolbauer-Fritz, co-commissaire de l'exposition.
Dans la première moitié du 19e siècle, les Efroussis ont joué un rôle important à Odessa, une petite ville située sur la mer Noire. Là, ils devinrent très riches grâce au commerce de céréales et fondèrent également des établissements bancaires. Très vite, ils s'établirent dans d'autres villes d'Europe, à Vienne, mais aussi en France. C'était des collectionneurs d'art et ils ont laissé des traces. On les retrouve par exemple dans les œuvres d'un des auteurs autrichiens les plus célèbres, Joseph Roth, mais aussi dans la littérature russe avec l'écrivain Isaac Babel et dans la littérature française. Dans le célèbre roman de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, plusieurs personnes ont en effet inspiré le personnage de Swann et Charles Efroussi était l'une d'entre elles.
Parfaitement intégré à la bonne société viennoise, celle de la Ringstrasse, le boulevard circulaire qui enlace la vieille ville, les Efroussis mènent une vie agréable dans la capitale autrichienne. Mais tout bascule le 12 mars 1938. La Wehrmacht entre en Autriche, accueillie par des habitants enthousiastes. Le lendemain, l'Anschluss est proclamé. L'Autriche est officiellement rattachée au Troisième Reich. À partir de ce moment, les Efroussis furent, comme beaucoup d'autres familles juives, spoliés par les nazis, explique Tom Juncker, l'autre co-commissaire de l'exposition.
Les Efroussis furent rapidement impactés. Le 18 avril, la Gestapo se rendit dans leur palais viennois et fit prisonnier Victor Efroussi et son jeune fils Rudolf. Victor Efroussi dut donner toutes ses possessions à la Gestapo sous peine d'être déporté dans un camp de concentration. Il dut leur donner sa collection d'art, qui comptait 70 tableaux, mais aussi d'innombrables meubles, absolument tout. Les nazis s'en prirent en premier aux familles juives les plus riches, car il y avait davantage à prendre, donc davantage de choses qui leur serait utile. Tous ces tableaux ont en effet été envoyés dans différents musées.
Mais l'exposition ne s'arrête pas là et s'intéresse également à la restitution au lendemain de la guerre de ces œuvres spoliées. Les Efroussis en récupéreront la majeure partie, mais pas toutes.
L'un des Efroussis, Iggy, était membre de l'armée américaine, un soldat qui a été en poste en Europe, en France. Grâce à ses contacts avec les Alliés, il réussit à obtenir d'eux qu'il recherche les possessions de sa famille. C'est comme cela que beaucoup de leurs biens leur furent restitués. Mais environ 19 tableaux restent introuvables. Ils sont sans doute quelque part dans des collections privées.
Certaines des œuvres restituées aux Efroussis sont montrées dans l'exposition, tout comme les archives familiales. Ces dernières ont été généreusement offertes au musée par les descendants de la famille. Un geste de réconciliation qui émeut les Autrichiens visitant l'exposition.
C'est comme un retour. Malgré tout ce qu'il s'est passé, leurs racines sont restées ici.
Évidemment, je trouve ça positif. Je pense que c'est possible, car c'est déjà la troisième ou quatrième génération. C'est bien qu'il y ait une réconciliation.
Je pense qu'ils ont fait ça pour qu'il y ait un lieu où on puisse montrer tout ce qui s'est passé, où on puisse en prendre conscience. Je trouve ça vraiment bien.
À l'instar des Efroussis, de nombreuses familles juives furent méthodiquement spoliées par les nazis en Autriche. Mais contrairement à eux, au sortir de la guerre, la plupart ne récupérèrent que très peu des œuvres qu'on leur avait volées. À cette époque, l'Autriche se présente comme une victime d'Hitler, malgré la participation des Autrichiens aux crimes nazis, et n'engage donc pas de réel travail de mémoire. La question de la restitution n'est pas totalement absente puisque des lois sont votées, mais elles sont très imparfaites, explique Brigitte Beiler, historienne.
C'est toujours resté limité à une restitution en nature, c'est-à-dire à ce qui existait encore et qu'on pouvait retrouver. Cela compliquait la restitution des œuvres d'art car les grandes collections étaient bien connues, mais pas les plus petites, qui pouvaient se trouver n'importe où. En outre, après 1945, il y avait une interdiction d'export pour les trésors artistiques et culturels. Les collectionneurs qui avaient survécu ont demandé à récupérer leurs collections. Et là a eu lieu, pour ainsi dire, un deuxième vol. La République a dit, vous pouvez sortir votre collection, mais certaines bonnes pièces restent ici. Or, la plupart de ceux qui ont pu quitter l'Autriche ont vécu une expérience tellement traumatisante dans ce pays qu'ils ne voulaient plus y revenir.
Les années passent et le regard de l'Autriche sur son passé évolue. Dans les années 90, enfin, un chancelier reconnaît officiellement la responsabilité des Autrichiens dans l'horreur nazie et s'excuse auprès des survivants. C'est lors de cette décennie, en 1998, qu'une véritable loi sur la restitution est adoptée. Elle crée une commission chargée d'enquêter au sein des collections publiques du pays afin d'identifier les œuvres spoliées pour les restituer. Une loi unique en son genre encore aujourd'hui.
C'est une loi importante car elle a mis en place un bon mécanisme. Les registres d'inventaire sont examinés de manière systématique pour pouvoir identifier les œuvres suspectes et ensuite on réfléchit à la manière de trouver les héritiers. On n'attend donc pas que quelqu'un vienne réclamer quelque chose. Bien souvent, en effet, il n'y a personne qui vient, car les gens ne sont plus au courant. C'était déjà il y a plusieurs générations.
Une dizaine de chercheurs de provenance dépendent de cette commission. Ils travaillent dans les musées fédéraux où ils enquêtent sur les œuvres qui s'y trouvent. Margot Werner a ainsi dû inspecter plus de 500 000 objets de la Bibliothèque nationale autrichienne, des livres bien sûr, mais aussi des cartes, des partitions ou des lettres.
Pour chaque objet, nous avons étudié la page de garde, le verso et les tampons qui figuraient dessus. Nous avons vraiment recensé tout ce que nous pouvions trouver. Il a aussi fallu faire des recherches sur l'histoire de la spoliation, notamment grâce aux archives nationales. Nous avons étudié les déclarations de biens ainsi que des documents d'après-guerre. C'est ainsi que nous avons pu monter des dossiers.
À la Bibliothèque nationale, cet inventaire est aujourd'hui terminé, même si d'autres cas de spoliation peuvent toujours être découverts à la lumière de nouveaux documents. Mais dans d'autres musées, ce travail continue, plus de 20 ans après l'adoption de la loi. Nous nous rendons au MAC, le musée des arts appliqués de Vienne. En son sein, de riches collections de meubles, d'argenterie, d'objets en porcelaine ou en verre. Autant d'œuvres sur lesquelles travaille le chercheur Leonhard Weidinger. Si les grands cas ont été facilement réglés, son travail aujourd'hui est plus complexe.
Les cas importants sont assez faciles car dans l'inventaire, il est clairement écrit « ancienne collection Rothschild » ou « ancienne collection Blockbauer ». Ces affaires sont donc terminées. Aujourd'hui, je travaille par exemple sur des objets en argent qui viennent de la maison de vente Dorotheum. Or, nous savons qu'il y a eu une vente aux enchères où les Juifs furent forcés de vendre à la maison Dorotheum leurs objets en argent, en or, leurs bijoux, à un prix qui représentait 10% de leur valeur réelle. Cela concernait des milliers d'objets. Dans notre inventaire, il est bien indiqué qu'ils viennent de Dorotheum, mais nous n'avons que des chiffres. Ces cas prennent donc beaucoup de temps et demandent beaucoup d'expérience.
Pour certaines œuvres et objets, les chercheurs disposent en effet de très peu d'indices. Dans cette perspective, Internet et les nouvelles technologies sont une aide précieuse.
Le nombre élevé d'objets et leur similarité sont des difficultés pour nous. Pour organiser cela, il faut faire l'inventaire de tous les objets et créer un système de banque de données. Sur ce point, les choses ont beaucoup évolué ces 10 dernières années. Désormais, les musées travaillent avec un système commun et utilisent des normes similaires. Et c'est la même chose lorsque l'on veut échanger avec d'autres institutions de recherche de provenance. Cela facilite notre travail aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup à faire.
Alors,
Les chercheurs ne travaillent pas pour les musées, mais bien pour la commission. Et leurs recherches sont examinées par un conseil qui décide s'il devrait y avoir ou non restitution. Une assurance d'indépendance qui fait la force de la loi autrichienne, selon Clemens Jablonner, à la tête de ce conseil.
L'évaluation juridique revient au Conseil de restitution, dont l'indépendance est garantie par le fait qu'il s'agit d'un comité scientifique qui ne peut recevoir aucune instruction dans l'exercice de son expertise. Il émet une recommandation que le ministre compétent peut ensuite suivre ou non. Mais jusqu'à présent, la recommandation a toujours été suivie.
Mais le grand public a surtout retenu les quelques cas polémiques, en particulier celui de Maria Altman, dont l'histoire a été racontée dans le film « La femme au tableau ». Cette Américaine d'origine autrichienne a en effet récupéré en 2006 cinq tableaux de Gustav Klimt ayant appartenu à sa famille, dont le fameux « Portrait d'Adèle », mais au prix d'une longue bataille judiciaire. Un cas particulier qui n'est pas représentatif de la politique de restitution de l'Autriche, peu ou mal connue du grand public, selon Eva Blimlinger, coordinatrice scientifique de la commission.
Je crois que l'Autriche pourrait davantage promouvoir son modèle et dire « Regardez, nous faisons du bon travail. Les responsables ne le font pas car ils craignent que les gens disent « Les Juifs ont tout récupéré, ils ont eu beaucoup de choses. » Ils ont peur de cet antisémitisme latent. À mes yeux, c'est une situation stupide car on pourrait communiquer en insistant sur le travail de mémoire, en disant « Nous rendons cela et nous en sommes fiers ».
De fait, depuis 1998, plus de 62 000 objets et œuvres d'art ont été restitués. Plusieurs organismes sont chargés de retrouver les personnes qui furent spoliées ou leurs ayants droit, dont le Fonds national d'indemnisation des victimes du national-socialisme, institution dirigée par Anna Lessing, elle-même petite fille de déportée.
Mon avantage, au fond, c'est qu'on a eu l'honneur de parler avec plus de 30 000 survivants et que comme l'Autriche, pendant 50 ans, au fait, n'avait pas vraiment pris contact avec ses survivants, ils avaient beaucoup d'histoires à nous raconter, mais ils avaient aussi beaucoup envie de retrouver un peu l'enfance perdue. Donc, chaque fois aujourd'hui que j'avais la possibilité de rendre une petite chose qui pourrait rendre la mémoire de cette famille. C'était superbe. Une de ces histoires qui m'a touchée le plus, c'est qu'il y avait une femme en 1999 qui est venue me voir, qui m'a dit, écoutez, en 38, je vivais dans une maison où il y avait un garçon qui avait mon âge, on avait tous les deux 8 ans. Lui, il était juif, moi non-juive. Et en 38, il est parti avec un Kindertransport. Et en 42, ses parents étaient déportés à Minsk pour être assassinés à Malytrostenets. Et la mère de son ami d'enfance a enlevé son alliance, l'a donnée en disant « Si tu retrouves mon Robert à la fin de la guerre, donne-lui cette bague comme dernier adieu. » Je regarde dans l'ordinateur, je trouve Robert. Et ils se sont rencontrés ici, elle lui a rendu l'alliance de sa mère. Et ça, c'est rendre l'enfance, rendre la mémoire de la famille. Parfois, c'est un magazine ou c'est un livre qu'on peut rendre. Et donc, c'est ce qu'on fait.
Nous nous rendons justement dans le premier arrondissement viennois pour rencontrer un homme qui a bénéficié d'une restitution.
J'ai connu le Troisième Reich censé durer 1000 ans, mais moi je vis toujours.
À 84 ans, Hannes Drexler n'a rien perdu de son humour. Cet aimable grand-père nous accueille dans son coquet appartement viennois, décoré avec soin. Les murs sont habillés de dizaines de photos, celles de sa famille. C'est d'elle qu'il va nous parler. Car en 2000, à sa plus grande surprise, Hannes Drexler a été contacté pour une restitution. Plusieurs exemplaires du chic parisien lui ont été remis. Des magazines imprimés à la maison d'édition fondée par sa famille qui en fut expropriée lors de la Seconde Guerre mondiale, une révélation pour lui.
Die Emotion war für mich eine wahnsinnig komische, weil
J'ai ressenti une émotion très étrange en les recevant, car cela m'a donné envie de me replonger dans l'histoire de la famille de ma mère. Et d'un coup, un monde s'est ouvert à moi. Un monde qui allait de la Pologne à l'Angleterre, en passant par la Suisse. Ces magazines de mode sont pour moi émouvants, car ils m'ont amené à réfléchir à la manière dont vivait ma famille à l'époque. Et cela a pris de plus en plus de place dans ma vie. Ce n'était plus seulement des magazines de mode, mais des personnes qui, soudain, m'apparaissaient.
Dadurch ist es immer mehr geworden, nicht? Das waren auf einmal nicht nur Modehefte, sondern das sind auf einmal Menschen aufgetaucht.
Bonjour, je m'appelle Karin Drexler, je suis mariée avec Hannes.
Depuis combien de temps vous êtes mariée?
56 ans cette année.
Sa femme a accompagné son mari tout au long de cette expérience et en a été, elle aussi, très émue.
Nous nous sommes assis ensemble et nous les avons feuilletés en nous disant « Regarde comme c'est beau, c'est colorié à la main ». C'est quelque chose que l'on peut toucher, quelque chose d'à la fois très personnel et en même temps de très beau. Le plus important n'est certainement pas la valeur, mais l'émotion que l'on trouve dans ce petit objet, et ça permet mais aussi la transmission d'une partie de l'histoire familiale à la génération suivante.
Cet immense travail de restitution est salué par l'IKG, l'organisation qui représente les Juifs d'Autriche, pour laquelle travaille Erika Jakubowicz. Mais il reste des efforts à faire, selon elle, notamment concernant le musée Léopold à Vienne. Il accueille la plus grosse collection au monde de peintures et de dessins d'Egon Schiele, ainsi que de nombreux chefs-d'œuvre accumulés au fil des ans par le collectionneur privé Rudolf Léopold, aujourd'hui décédé. Une collection aux origines troubles, estime Erika Jakubowicz, ce que lui et sa famille ont toujours démenti.
C'était un grand collectionneur de Schiele, mais selon moi, il savait ce qu'il achetait. Il savait souvent qui était le précédent propriétaire et que ses œuvres n'avaient pas été restituées. On peut donc dire que beaucoup de choses n'ont pas été achetées en toute bonne foi. Le problème que nous avons, c'est que, pour ainsi dire, la République a souhaité que cette collection soit confiée à une fondation privée. Le musée Léopold n'est donc pas soumis à la loi sur la restitution des œuvres d'art, et cela doit changer.
La loi ne concerne en effet que les musées fédéraux, mais face aux suspicions, le musée Léopold a mis en place en 2008 une commission de recherche de provenance pour faire la lumière sur l'origine des œuvres qui s'y trouvent, un travail auquel Erika Jakubowicz a du mal à croire.
Le musée Léopold n'a pas la possibilité de faire une recherche de provenance vraiment indépendante, car quand la collection est arrivée dans le musée, les documents, les factures, les correspondances n'ont pas été données. Ça signifie qu'elles sont encore dans le privé, chez la famille Léopold. Quand un chercheur de provenance a besoin de quelque chose, il doit donc appeler Madame Léopold, se rendre sur place et elle donne ce qu'elle souhaite.
Muss man die Frau Professor Leopold anrufen und dann sie hingehen und sie gibt das, was sie möchte.
Du côté du Léopold, on est conscient des critiques, mais Alfred Feringer, l'un des responsables de la recherche de provenance au musée, l'assure, un réel travail est fait pour restituer les œuvres qui doivent l'être.
Les documents n'ont pas été inclus dans le contrat entre la République et la Fondation. Évidemment, c'est un problème, mais en même temps, je ne sais pas si ces documents existent. Je ne sais pas si je n'y ai pas accès car on ne veut pas me les donner ou parce qu'ils n'existent pas. Je travaille donc avec ce qui est disponible, c'est-à-dire principalement des catalogues d'œuvres, d'expositions, de ventes aux enchères et les documents de la collection Léopold que nous avons déjà. Ils ont leurs lacunes, il n'y a pas de réponse à toutes les questions. Mais on a de trop grandes attentes si l'on croit que l'on peut tout éclaircir grâce aux documents de la famille Léopold. Ce n'est pas le cas.
Man erwartet sich zu viel, wenn man glaubt, es ist alles über Dokumente der Familie Leopold aufklärbar. Das ist es nicht.
C'est la question qui se pose aujourd'hui. Que faire concernant les œuvres spoliées qui sont désormais la possession d'institutions ou de personnes privées? Il n'y a pas de réponse évidente, avoue Ulrike Lunacek, la nouvelle secrétaire d'État à la culture, mais il y a, selon elle, des moyens d'agir.
What we have in the government program is something...
Dans notre programme gouvernemental, nous disons clairement qu'il faut que les collectionneurs privés qui prêtent des œuvres de façon permanente enquêtent avant de le faire sur la provenance de ces œuvres. Je ne crois pas qu'on puisse arriver à cela avec une loi, mais plutôt par un dialogue avec eux, car nous avons une responsabilité par notre histoire et en tant qu'êtres humains.
Au niveau international, les spécialistes estiment qu'environ 100 000 œuvres d'art volées par les nazis n'ont à ce jour toujours pas été retrouvées.
En Autriche, restituer l'art pour rendre la mémoire, un grand reportage d'Isorias, réalisation Pierre Chaffangeon.
C'est pas du vent.